Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h48, les grands débats ce matin avec Lydia Garous et Elisabeth Lévy. Et juste après 9h, Éric Revel sera avec nous. Hein,
oui.
Et on reviendra sur les parrainages.
Oui, Revel en campagne ce matin qui va soulever le point, enfin, soulever déjà depuis quelques jours, on en parle beaucoup de cette question des parrainages, puisqu'il y en a certains qui n'ont pas encore leurs 500 signatures. Oui. Et c'est un véritable problème à maintenant 3 mois des élections. Alors évidemment, il y a le plan.
Revel les a, lui.
Revel, lui, les a. Il les a. Il a votre voix, donc il est parrainé. On va revenir peut-être quand même aussi d'un mot, parce que je sais que ça réagit beaucoup, à la fois sur les réseaux sociaux, Cécile nous le dira dans un instant, sur le déplacement d'Emmanuel Macron hier sur le thème de la sécurité, et puis au standard 0826-300-300, vous pouvez réagir. Emmanuel Macron, alors, il est à 3 mois de la fin de son quinquennat, et là, sur la sécurité, boum, alors, l'artillerie, quoi. Lydia Garous, est-ce que c'est à chaque fois la même chose à la fin des quinquennats ou septennats, mais en tout cas plus près de nous des quinquennats des présidents?
Alors moi j'ai pas le souvenir en fait d'une fin de mandat où les Français se disaient hyper satisfaits sur le plan de la sécurité.
Ouais.
J'ai l'impression que qu'importe l'orientation politique, que ce soit un président de gauche ou de droite, il y a toujours une insatisfaction en disant la sécurité se dégrade. Bon, là il y a des indicateurs qui montrent que en tout cas, pour la très large majorité des Français, il y a un sentiment que c'est pas au rendez-vous. Mmh. Depuis plusieurs années, on sent qu'Emmanuel Macron est pas très à l'aise sur les questions de sécurité et sur le régalien. Et moi, je suis toujours considéré que c'était son talon d'Achille. Mais il a eu une prise de conscience. Je trouve il y a un peu plus d'un an, et il a rétabli un petit peu les choses. Il a lancé évidemment le Beauvau de la sécurité, les états généraux de je ne sais plus quoi, parce que je crois qu'il y a des états généraux. Il a nommé Gérald Darmanin, qui avait parlé d'ensauvagement, et évidemment, au sein de la majorité, beaucoup avaient dit mais qu'est-ce que c'est que cette expression empruntée à l'extrême droite, etc. Donc il y a une volonté d'aller sur ce terrain-là, un terrain qui est d'habitude celui de la droite. Derrière cette volonté, il y a aussi une volonté d'étouffer les LR.
Et l'ensemble, quoi. Elisabeth Lévy, non?
La question qu'on peut se poser, si vous voulez, mais de même, quand Nicolas Sarkozy nous a dit qu'il allait passer le Karcher et qu'il ne l'a pas passé, si vous voulez, c'est pourquoi ne l'a-t-il pas fait jusque-là?
C'est toujours la question,
Lydia. Et donc, si vous voulez, les promesses de fin de campagne, de fin de mandat n'engagent vraiment que ceux qui les croient, si vous voulez, parce qu'il ne l'a pas fait pendant 5 ans. Alors moi, j'en ai un peu assez qu'on m'a répondu Covid à chaque fois qu'on dit quelque chose. Si vous voulez, le Covid n'explique pas tout. Lydia a raison, il ne l'a pas fait parce qu'idéologiquement, il n'était pas tout à fait armé pour le faire. Est-ce qu'il le fera? La deuxième question que je me pose, en fait, mais là, j'ai vraiment pas de réponse. J'en appelle à votre sagacité, mes amis. Et peut-être Éric pourrait nous être utile parce qu'il connaît bien le sujet. C'est est-ce que c'est simplement un problème d'effectif?
Ouais.
Voilà. Est-ce que une fois qu'on aura recruté, si on les recrute, c'est pardon Lydia, combien? 10 000,
Oui, 10 000.
Il y a déjà eu des recrutements de fait, il y aura d'autres recrutements encore.
Ouais. Il faut préciser les choses. Il y a eu 10 000 depuis un petit bout de temps, hein, puisque quand on regarde les chiffres d'il y a quelques années, on était à 96 000, on est passé à 106 000 en fait aujourd'hui. Donc il annonce la création de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Et puis, surtout à l'intérieur de ça, il y aura aussi un redéploiement d'effectifs policiers, certains qui ne feront plus des tâches administratives, qui seront remplacés par des personnels administratifs, et ensuite qui permettront évidemment de renforcer...
Je l'ai écouté hier, moi très honnêtement, je me suis dit, j'avais l'impression d'entendre le programme de Nicolas Sarkozy il y a quelques années avec on va alléger la paperasserie, on va alléger les lourdeurs administratives qui prennent beaucoup de temps sur le travail des policiers, qui font qu'ils ne peuvent pas être là pour enquêter. J'ai vraiment eu ce sentiment-là. Il y a aussi un élément, c'est que Gérald Darmanin est quand même un ministre qui est puissant et qui compte, et donc beaucoup d'arbitrages ont été gagnés par Gérald Darmanin pour augmenter les moyens de la police, pour avoir plus de budget. Donc ces choses-là ont déjà été faites. Après, ça sera évidemment pour le prochain quinquennat.
Au 0826-300-300, ça réagit avant de revoir aussi avec Cécile ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Avec Yann qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Yann.
Bonjour Yann.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Oui. Meilleurs voeux déjà.
Bonjour. Bonjour. Oui, vous aussi.
Encore dans la période.
Bonjour Yann.
Voilà. Donc une bonne santé avant tout à vous et à vos auditeurs. Ouais. Alors oui, ça me fait réagir effectivement. Ça me fait réagir concernant Emmanuel Macron qui encore une fois fait campagne avec le chéquier des Français. Voilà, parce que le président qui n'est pas en campagne d'ailleurs, qui est toujours pas déclaré candidat, mais qui quand même se balade un petit peu partout. Alors Nice, je pense que c'est pas par hasard qui fait cette déclaration à Nice sur les terres d'Éric Ciotti. Ouais. Quand même. Donc effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est un petit peu pour embêter la droite, pas qu'un petit peu pour l'embêter. Enfin, les promesses, effectivement, comme disait Elisabeth Lévy sur les fins de campagne, n'engagent que ceux qui les croient, comme disait le regretté Charles Pasqua et aussi Jacques Chirac. Voilà, les deux regrettés. Ouais. C'est assez affolant en fait, parce que les violences en fait en France et autres, j'ai un petit peu regardé entre 2019 et 2021 là, ça a augmenté, on est quasiment à 2000 agressions par jour en début d'année 2021. Sur la France. Darmanin fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, il se vante de ceci, de cela, enfin voilà, au bout d'un moment. Le problème, je ne pense pas effectivement, comme vous disiez, que ça soit le fait de doubler, tripler les effectifs et pourquoi pas les quadrupler, enfin il peut aller autant qu'il veut comme ça, mais c'est peut-être un problème d'utilisation des moyens. Quand aujourd'hui les policiers en région parisienne ou autre, ou un peu partout, sont obligés d'aller contrôler des passes vaccinaux, vont faire interrompre des séances de cinéma pour aller vérifier que les gens dans la séance de cinéma sont tous vaccinés, qui rentrent dans des restaurants pour voir si les gens ne sont pas des délinquants. Enfin, il y a tout un tas de petites choses. Alors, je vais pas revenir sur les déclarations du président de début d'année. Je pense qu'il est bipolaire, moi, au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand on l'a au 31 décembre où il fait un discours et que 5 jours plus tard il dit qu'ils vont... Enfin, non, je vais même pas utiliser le mot, mais voilà.
On va pas l'utiliser parce que évidemment il faut pas le répéter devant les enfants. Et nous sommes de grands enfants.
C'est ça. Ah, voilà, moi c'est je suis ça. Un grand enfant encore. Ouais. Je n'ai que 54 ans. et au-delà de ça, le fait que moi je repars quand même du principe qu'en France tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc aujourd'hui, on considère comme des sous-citoyens, enfin, ils considèrent comme des sous-citoyens ou des gens qui ne sont même plus des citoyens, des gens qui vont pas se faire une picousse qui n'est pas obligatoire. Ouais. Voilà. Mais à côté de ça, alors là, on nous parle de mettre des policiers de partout, machin et compagnie. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire en fait? Parce que le problème c'est pas de savoir s'il va en mettre machin et compagnie. D'abord, effectivement, il faudrait déjà qu'il soit réélu. Et il y a que les instituts de sondage qui nous expliquent qu'il est en tête depuis machin. Moi, je ne vois que des gens qui veulent le dégager.
Alors, alors c'est vrai, mais Yann, en même temps, il y a une base quand même assez solide. C'est vrai. Il y a probablement 70 ou 75% de gens qui ne se prononcent pas aujourd'hui, en tout cas au premier tour pour Emmanuel Macron, puisque le rolling que l'on a donné en fait hier, c'est-à-dire le premier sondage en temps réel, donne 27% quand même pour Emmanuel Macron, et puis ensuite il y a une dispersion un peu des voix, c'est Marine Le Pen qui arrive.
Moi j'aimerais savoir qui sont les sondés, j'ai jamais été sondé.
Oui, non mais c'est vrai, mais honnêtement
c'est une tendance.
Là c'est 1500 personnes.
On est 66,7 millions de Français.
Vous avez raison Yann, mais après c'est vrai que ces études sont assez quand même poussées et affinées, et ça donne en fait des photos. Alors, ça ne donne pas l'élection, mais ça donne en fait des photos. Et donc, vous pouvez rencontrer...
Je connais plein de gens qui ont des moyens, et qui font travailler notre pays, qui sont des investisseurs et compagnie, et qui aujourd'hui me disent clairement que si Emmanuel Macron repasse, ils envisagent de partir à l'étranger. Et de se barrer, parce que franchement, ils n'en peuvent plus. Donc, au bout d'un moment, pourtant, il a favorisé les banquiers mais en même temps, on a confié le pays à un banquier. Ouais. C'est un peu comme si on avait confié notre cave à un alcoolique.
Mais est-ce qu'il y a des candidats qui les feraient rester?
Comment?
Est-ce qu'il y a des candidats qui les feraient rester, cher Yann? Est-ce qu'il y a
Il y en a quelques-uns qui ressortent. Ouais, il y en a quelques-uns qui ressortent aujourd'hui, mais effectivement.
On attend des noms.
je sais pas ce que va donner la droite, la droite républicaine, parce que effectivement, c'est cette fausse primaire qui était, voilà, ça ne plaît pas à la droite, classique qui était là avant. Voilà, mais enfin, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais effectivement, ils sont pas tous fans de Valérie Pécresse. Raison va l'emporter.
Allez, on va en débattre dans un instant. On a pris un petit peu de temps avec vous. On va continuer aussi sur les parrainages, hein, puisque évidemment, il y en a qui, pour l'instant, n'ont toujours pas leur signature. Et dans ces conditions,
en tout cas, pas la totalité.
Non, pas la totalité. Ça pose un problème. Revel en campagne dans un instant et nos débatteurs.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, la suite des grands débats avec Elisabeth Lévy, avec toujours Lydia Guérousse. Vos appels 0826-300-300 et Éric Revel ce matin, avec Revel en campagne.
Revel en campagne présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel.
Bonjour, Éric. Bonjour Patrick.
C'est
bonjour
le système des parrainages qui est sous le feu des critiques, hein, déjà depuis quelques jours, et plus finalement on avance dans le temps, plus c'est compliqué pour certains candidats, évidemment, qui n'ont toujours pas leur candidature, et pas forcément des tout petits, hein, puisque Le Pen, Mélenchon, c'est pas n'importe qui, ou encore Éric Zemmour.
Oui, l'affaire des parrainages et des fameuses 500 signatures de maire dans 30 départements, hein, comme on rappelait ce matin Patrick Kanner, votre invité, le sénateur socialiste. C'est vrai, c'est une vieille histoire qui revient en fait à chaque élection présidentielle. Alors preuve que ce système, évidemment, est loin d'être parfait. Alors depuis que le socialiste, vous en souvenez, hein, François Hollande a fait sauter l'anonymat des maires parrains, ben seuls les candidats installés avec un parti structuré ont la possibilité finalement de briguer le suffrage présidentiel. C'est une curieuse quand même conception de la démocratie. Et puis c'est encore une socialiste, vous en parliez ce matin Patrick, Anne Hidalgo, candidate à la magistrature suprême, qui a osé dire que pour Zemmour, Le Pen ou Mélenchon, c'est tant pis pour eux, hein, je cite, c'est tant pis pour eux s'ils n'avaient pas leur parrainage, alors que ces trois candidats sont souvent crédités dans les fameux sondages d'un score à deux chiffres. Là aussi, c'est une curieuse conception de la démocratie pour un parti de PS qui s'honore pourtant régulièrement de donner des leçons de démocratie à la société française.
Oui, alors est-ce que ce système des parrainages bloque la démocratie alors ?
Bah, moi je pense que le système bloque, le système est bloqué. D'ailleurs, le nouveau président de l'AMF, l'Association des maires de France, le maire LR de Cannes, David Lisnard, a écrit dans un communiqué il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'une fois la pression de la présidentielle retombée, il faudrait justement, sans doute, a-t-il dit, il le demanderait au bureau de l'AMF, améliorer, réformer ce système des 500 parrainages, preuve qu'il y a un problème.
Oui, et alors quelles sont les pistes pour la réforme ?
Alors, dans ce communiqué, Didier Lisnard, avec qui j'ai échangé, David Lisnard évoque trois possibilités. Un, pour débloquer le système, un double vote de maire. Un double vote, c'est intéressant. Un vote de soutien, vous pourriez donner si vous étiez maire d'une commune, Patrick, un vote de soutien. Je suis socialiste, je soutiens tel candidat socialiste. Et un deuxième vote, un vote républicain. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un de ma tendance, mais au nom de la démocratie française, je pourrais choisir tel candidat. Ça, c'est le système du double vote proposé. Il y a aussi un vote citoyen. Le maire de Cannes, président de l'AMF, propose un vote citoyen, alors dont la barre, évidemment, et les conditions restent à fixer, c'est un peu flou, mais qui aurait l'avantage, c'est vrai, hein, dans ce moment difficile pour la société française, de donner la parole et finalement la sélection au vote populaire. Et puis, troisième possibilité évoquée, tout simplement le retour à l'anonymat pour éviter aux maires de subir ce qu'on appelle quand même, et qui est courant, le chantage aux subventions de leur collectivité locale. Ouais. Si tu files ton parrainage à tel candidat, on va s'occuper de tes subventions, monsieur le maire.
Ouais. Et si des candidats majeurs n'avaient pas leur signature et ne pouvaient pas être candidats, est-ce qu'il faudrait redouter des nouvelles tensions dans le pays, du coup ?
Alors moi, je crois... Alors, il y a sans doute quand même, Patrick, une part de mise en scène. Hein. Ouais. On se souvient que Jean-Marie Le Pen, très régulièrement, lorsqu'il était candidat, pour faire aussi parler de lui, disait « Je ne vais pas avoir mes 500 signatures ». Mais vous avez raison, si des candidats majeurs n'obtenaient pas leur précieux sésame, ce serait quand même un déni de démocratie, il faut le dire. La cocotte minute, elle a besoin de faire échapper la vapeur. Et puis, vu l'état de tension et d'exaspération dans le pays actuel, vous avez raison, ben, la rue pourrait prendre la parole directement. Et cela, à mon sens, le pouvoir doit s'en méfier comme du lait sur un feu trop vif en ce moment en France.
Oui, chaque matin, donc à 9h, Revel en campagne. Eh bien, à partir de là, justement, et Elisabeth Lévy, vous avez assisté hier à la cérémonie des vœux d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il a évoqué ce problème des parrainages ? Elisabeth Lévy, ah.
Elisabeth. Oui, je suis là.
Oui, Elisabeth.
Pardon, j'ai écouté en différé.
Oui, je vois ça. Écoutez en direct aussi, c'est pas plus mal. Alors, oui. Chère Elisabeth, est-ce que Éric Zemmour a évoqué ce problème des parrainages pour lui hier lors de la cérémonie des vœux à la presse, puisqu'il a organisé cette petite cérémonie ?
Alors la question lui a été posée et il a dit que c'était dur, il n'a pas donné de précision. Hein. Ouais. Alors Éric a raison sur le fait qu'il y a souvent une mise en scène, cela dit, en 1981 par exemple, Jean-Marie Le Pen et je ne sais plus qu'un autre candidat, Krivine, Alain Krivine, hein, qui était le patron de la Ligue communiste révolutionnaire, ils n'ont pas pu se présenter. Alors ils ne représentaient pas autant qu'aujourd'hui pour Jean-Marie Le Pen, pour ouais. le Rassemblement national. Mais tout de même, c'est déjà arrivé. Moi, je suis assez perplexe quand même par rapport à ce système qu'Éric vous avez évoqué, du maire qui soutient. Parce qu'en réalité, c'est un dévoiement, là pour le coup, du système, vu que ces parrainages, c'est ça qu'il faudrait rappeler, ne sont pas un soutien, si vous voulez. Sinon, on va avoir des maires socialistes. Je vois pas très bien l'intérêt qu'un maire socialiste nous dise qu'il soutient la candidate socialiste. Oui, certes. Mais là, on reste vraiment dans le système des partis. Et je suis par ailleurs également réservé sur les parrainages citoyens, parce que là, je crains autre chose. C'est toutes les minorités, si vous voulez, qui passent leur temps à envahir l'espace public avec leurs revendications, qui, là, pour le coup, risquent de présenter des candidats. Donc, je ne suis sûr.
Bah oui, mais c'est la démocratie. À un moment donné, il faut l'accepter, quoi, aussi, Elisabeth. Bah,
écoutez, la démocratie, c'est quand même... Ouais. Je ne suis pas d'accord, justement, si vous me permettez, cher Patrick. La démocratie, c'est les électeurs votent à la fin. Donc, est-ce qu'il doit y avoir une préélection, une espèce de présélection faite également par les électeurs ? À la limite, il me semble que le plus simple, ce serait tout simplement de revenir à l'anonymat.
L'anonymat sur les parrainages. Bon, il y a quand même, par rapport à Éric Zemmour, qui n'a pas ses signatures, comme Mélenchon pour l'instant, comme Marine Le Pen. Mais on dit que Marine Le Pen, elle pourrait quand même les avoir un petit peu plus facilement. Sur Éric Zemmour, est-ce que le fait que Guillaume Pelletier, qui vient des LR et qui apparaît-il un réseau de maires, d'élus, il a rejoint Éric Zemmour, hein, comme directeur de campagne, je crois, ou porte-parole de campagne.
Porte-parole et
vice-président. Lydia Guirous, est-ce qu'il peut apporter dans sa manne, dans la corbeille, quelques parrainages ?
Oui, je pense, et évidemment Guillaume Pelletier, c'est quand même une bonne prise pour Éric Zemmour, parce que Guillaume Pelletier, en dépit de toutes les critiques qui ont été faites, mais c'est le jeu politique, c'était un élu LR qui comptait, qui avait un réseau aussi d'élus, donc il va certainement apporter quelques élus avec lui, comme j'imagine Philippe de Villiers va le faire. D'ailleurs, il y a déjà eu un ancien vice-président de la région Pays de Loire, Sébastien Pilard, qui était le président de Sens Commun. Sens Commun qui a des élus, comme la Manif pour tous d'ailleurs, qui a rejoint aussi Éric Zemmour. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je pense peut-être au sénateur Étienne Blanc, qui a posé la question, est-ce que ce n'est pas auprès d'Éric Zemmour que nos convictions seront les mieux défendues ? Oui, je pense que Guillaume Pelletier aura aussi ce rôle de convaincre d'autres élus de le rejoindre et également d'apporter son parrainage. François Hollande a rendu plus difficile en fait les parrainages, puisqu'il a instauré, il a mis fin à l'anonymat, mais en plus de ça, il faut avoir ses parrainages dans 60 départements différents et vous ne pouvez pas avoir plus de
30
et vous ne pouvez pas avoir par exemple 200 parrainages sur le même département où vous avez votre réseau si vous êtes un élu de ce département-là. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. En même temps, Éric Zemmour connaissait les règles du jeu et on ne peut pas les changer au moment de la présidentielle dans laquelle il s'engage. Il faudra néanmoins entamer une réflexion pour la suivante.
Un mot, Éric Revel, sur...
Oui, juste pour répondre à Elisabeth, l'une des pistes de réforme, c'est d'octroyer aux maires, en fait, deux votes. Un vote de soutien et un vote républicain. C'est pas d'en substituer un pour l'autre, Elisabeth.
Pourquoi un vote de soutien? Quel est le sens?
On affiche sa couleur, mais à côté de ça, on peut avoir un parrainage qui soit non pas un vote de soutien politique, mais un vote républicain pour soutenir la démocratie. Donc ouvrir
les deux ne sont pas obligatoires,
juste,
hein, Elisabeth.
Je sais pas si vous avez vu, y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est la déclaration de Geoffroy Didier, qui est un des porte-parole de Valérie Pécresse, qui a dit, lors d'une interview, s'il y a des maires qui donnent leur soutien à Éric Zemmour, alors en gros, on va les exclure. Mais alors, il n'a pas tout compris, Geoffroy Didier. Parce que moins Zemmour aura de parrainage, moins il sera candidat.
Je pense qu'ils ont bien compris. Et ils jouent un double discours. Oui. Alors, Geoffroy Didier ou d'autres LR.
C'est très étrange de dire ça. Mais parce que le maire de la petite commune qui entend ça, je vais pas donner mon soutien.
Je pense que c'est un double discours. Ils sont obligés de dire qu'ils vont les exclure et on sait ce que valent les menaces d'exclusion de la part des Républicains. Ils ont quand même mis des mois, voire ils n'ont jamais exclu certains qui sont passés chez Macron, par exemple. Donc les maires, ça leur fera pas franchement très peur. Et puis pour rester dans le champ républicain et tenir ce fameux cordon sanitaire face à l'extrême droite, ils sont obligés de dire qu'ils vont exclure. Mais je pense qu'en sous-main, ils n'empêcheront pas les maires d'apporter leur soutien à Éric Zemmour parce qu'il est la garantie d'aller au second tour pour Valérie Pécresse. Il faut quand même le rappeler.
Oui. Bon, merci en tout cas. Et je rappelle le sondage. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais quand même, on en parlait tout à l'heure et dans le journal encore. C'est vrai que Emmanuel Macron est assez haut par rapport à ses rivaux. Ça ne veut rien dire, bien sûr, mais il est à 27 points, alors que Valérie Pécresse et Marine Le Pen sont dans un mouchoir de poche à 17.
Enfin, décrochage de Valérie Pécresse, quand même, dans ce sondage. Elle est à 15,5.
À 15,5, pardon.
Elle est à 15,5, par Marine Le Pen. Éric Zemmour est à 12.
Oui. Et puis Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant, c'est en temps réel. Donc on verra aussi les effets des annonces des uns des autres. C'est assez intéressant qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les sondages, mais ce ne sont que des sondages. Il y a un message d'un auditeur qui dit ma proposition que les candidats à la présidentielle soient tenus de présenter 12 projets de loi et leurs décrets d'application qui pourraient être à la base de leurs projets avant d'avoir les parrainages. Pourquoi pas? C'est vrai, de constituer un catalogue de propositions. Ça fait partie des choses. Allez, dans un instant, on va parler de la souveraineté, du souverainisme.
Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les familles, justement, de souverainisme? Et à qui ça s'adresse? Et surtout, est-ce que les candidats, quelle sorte de souverainisme soutiennent certains candidats? On en parlera avec Thomas Guénolé, un politologue. Dans quelques instants, vous voulez en parler et puis poser des questions 0826-300-300. Vous attend au standard.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20 avec un livre très éclairant. L'auteur est avec nous, Thomas Guénolé, politologue, maître de conférences à Sciences Po. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Ce livre, ça s'appelle Le Souverainisme dans la collection Que sais-je. Donc on va tout savoir sur justement qui est souverainiste et qu'est-ce que le souverainisme.
Oui, et il y a des grandes familles. Hein. Alors dans ce livre, d'abord, vous nous faites un récit un peu historique et géographique. Ouais. On voyage pour voir ce qu'est le souverainisme un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, on en arrive aux grandes familles en France. D'où est venu déjà le souverainisme?
Alors, ça vient de loin.
Alors, ça dépend si on parle donc du concept de souverainisme, à quel moment le mot apparaît. Ouais. Merci, c'est gentil, l'éditeur. Au nom de mon éditeur, je vous remercie beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie. Donc oui, il y a le concept de souverainisme, quand est-ce que le mot apparaît? Et ça, c'est au Québec dans les années 1960. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est célébrissime au Québec, qui s'appelle René Lévesque. S'il y a des Québécois qui tombent sur cette interview, ils seraient très contents d'entendre qu'on en parle en France. Donc, au Québec, le mouvement pour l'indépendance du Québec ou pour l'autonomie, il y avait les deux en même temps, deux types de militantisme, se sont organisés, structurés autour d'un leader charismatique qui était René Lévesque, mais ce dernier, pour mettre d'accord de manière assez large à la fois ceux qui voulaient l'indépendance du Québec et ceux qui voulaient son autonomie à l'intérieur du Canada fédéral, eh bien, il a développé un nouveau concept qui veut dire à la fois être pour l'indépendance ou pour l'autonomie ou davantage d'autonomie, mmh. et ça a donné le mot souverainisme. Cependant, et c'est donc, oui, c'est ce que j'explique, vous y faisiez allusion dès l'introduction du bouquin, cependant, le souverainisme, quand on s'attache à la définition que je viens de donner, il existait avant que le concept ait un nom.
Le soit défini, oui.
C'est comme le capitalisme. Le capitalisme a existé avant que Marx le baptise capitalisme.
Oui,
et il y a plein de sujets comme ça.
Ouais.
Et donc, là, en l'occurrence, on peut considérer, par exemple, que tous les mouvements de décolonisation, c'est du souverainisme. Et j'explique d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, il y a une étude de cas sur Gandhi. La plupart des gens ne sont pas au courant, mais Gandhi était souverainiste. Il était souverainiste indien. La meilleure preuve de ça, c'est qu'il s'est battu quasiment toute sa vie pour l'indépendance de l'Inde vis-à-vis de l'Empire britannique. Et on peut dire ça de tous les militants de la décolonisation par le passé ou encore aujourd'hui. Et en l'occurrence, il a littéralement écrit un bouquin au tout début du XXe siècle dont la traduction du titre en français est « Inde souveraine ».
Voilà, au moins c'est clair.
Alors, vous parliez des familles, j'y reviendrai tout à l'heure, vous voulez.
Tout à l'heure, mais peut-être sur la définition, qu'est-ce que le souverainisme ? Parce qu'on en parle beaucoup, à tort et à travers, probablement, mais si on pouvait le définir en quelques mots.
Alors, le souverainisme, c'est une doctrine politique qui préconise, pour une nation, l'indépendance ou l'autonomie, ou davantage d'autonomie si elle est déjà autonome. Du point de vue donc des gens qui militent pour ça, ils vont donc vous dire il y a telle nation qui existe, il y a tel pouvoir politique au-dessus d'elle, ça peut être un État fédéral, ça peut être un État unitaire, ça peut être une organisation internationale comme l'Union européenne, ça peut être la mondialisation. Quand on parle du souverainisme économique, on va considérer ça comme une force au-dessus des États. Et donc il y a aussi le souverainisme économique.
Sur différents
sujets. Sur différents sujets. Et donc le souverainisme précisément est réduit vraiment en deux phrases, c'est ça. Et donc il y en a, le souverainisme, il existe, à l'heure où je vous parle, il existe sur les 5 continents. Il y a par exemple des militants en Chine qui se battent pour l'indépendance de l'Ouïghouristan. Vous avez entendu parler de la persécution des Ouïghours. Eh bien, donc, il y a des souverainistes Ouïghours à l'heure où je vous parle. Si vous regardez en Afrique, récemment, il y a quelques années, le Soudan du Sud est devenu indépendant par rapport au Soudan dans son ensemble. Et donc, vous avez eu des souverainistes du Soudan du Sud, mais on peut parler aussi d'autres pays d'Afrique. Quelque part, les Palestiniens, si vous regardez bien, ils se battent bien pour l'indépendance de leur territoire, ça fait d'eux des souverainistes palestiniens.
L'Ukraine, on pourrait dire ça aussi, aujourd'hui ?
Non, parce que l'Ukraine n'a pas de pouvoir politique au-dessus d'elle.
Il y a même une espèce de mainmise psychologique.
Là, on est plus sur des conflits géopolitiques entre puissances, mais à l'époque de l'Union soviétique, assurément. Par ailleurs, un très bon exemple historique récent de grand printemps souverainiste, c'est à l'époque de l'effondrement du bloc de l'Est, où vous avez eu un certain nombre de nations qui étaient à l'intérieur de l'Union soviétique et qui sont devenues indépendantes. Je pense aux États baltes, par exemple, où il y a eu donc des souverainistes. Après, vous y faisiez référence tout à l'heure, il y a plusieurs familles de souverainisme, et leur principale différence, c'est qu'elles ne définissent pas la nation de la même manière, et c'est pour ça qu'elle n'arrive jamais
nation,
à s'entendre.
Nation et souveraineté, souverainisme, forcément, ça fait bloc, ça fait corps.
Absolument. En revanche, entre un souverainiste de telle famille et un souverainiste de telle autre, ils ne vont pas être d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils entendent par nation. Et donc,
on va voir ça dans un instant, Thomas Guénolet, le souverainisme, le que sais-je. Si vous avez des questions à poser sur la souveraineté, le souverainisme, vous n'hésitez pas, Thomas Guénolet est avec nous encore pendant un bon petit bout de temps, pendant un bon quart d'heure, et ça va... Il a de la voix, il avait un petit problème de voix, mais tout va bien, on lui a donné...
Ils m'ont donné un lait au miel avant qu'on passe à l'antenne, vous savez tout maintenant.
0826 300 300, vous avez une question sur le souverainisme, n'hésitez pas.
A tout de suite, c'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h28, Thomas Guénolet est avec nous, politologue, maître de conférence à Sciences Po pour ce livre, Le Souverainisme dans la collection Que sais-je, c'est un petit bouquin. Ça se lit super bien et c'est vraiment très intéressant et en plus ça éveille les sens et ça permet de comprendre pas mal de choses.
Oui, et notamment le jeu des quatre familles, c'est ça. Quatre familles de souverainisme. Alors comment on peut les classer,
les définir ? Vous avez donc on rappelle pour ceux qui nous prennent en route, le souverainisme c'est une doctrine politique qui préconise l'indépendance ou l'autonomie ou davantage d'autonomie pour une nation par rapport à un pouvoir politique qui est au-dessus d'elle, qui peut être un État fédéral comme le Québec par rapport au Canada, ou qui peut être une organisation internationale comme par exemple la France vis-à-vis de l'Union européenne. Ça c'est souverainisme. Après vous avez donc effectivement quatre familles. Vous avez le souverainisme ethno-culturel, culturel si vous préférez. Donc ça c'est ceux qui disent la nation qu'on défend, c'est une nation qui a une identité culturelle avec ses traditions, sa langue, ses coutumes, etc. Et donc, ça va être, par exemple, je raconte le cas de l'Autriche-Hongrie au XIXe siècle, où petit à petit, il y a eu des souverainismes ethnoculturels à l'intérieur du pays qui se sont battus pour avoir l'indépendance de leur nation en tant qu'identité des traditions, des coutumes. C'était les souverainistes hongrois, c'est les souverainistes tchèques, et l'Autriche-Hongrie a fini par péter, d'ailleurs. Donc, vous avez le souverainisme civique. Le souverainisme civique se contrefiche totalement des questions d'identité culturelle. Ils sont juste en train de dire, nous sommes une nation parce que nous tous, collectivement, nous formons une communauté de citoyens qui veulent que cette nation existe et qui veulent en être citoyens. Donc ça, c'est le plébiscite de tous les jours, le vouloir vivre ensemble, c'est le souverainisme civique, c'est chevènement vis-à-vis de l'Union européenne, par exemple, qui vous parle jamais d'identité culturelle, mais qui vous parle tout le temps du contrat social républicain.
Ouais.
Vous voyez ? Vous avez ensuite un souverainisme dont on parle pas souvent, mais pourtant il existe, qui est très bien incarné par exemple par la ligne éditoriale d'un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique, en France en tout cas, et qui va être le souverainisme marxiste. Alors le souverainisme marxiste, ou marxiste révolutionnaire pour être tout à fait précis, ce sont des gens pour qui l'indépendance ou l'autonomie de la nation n'est pas un but en soi, c'est un moyen, parce que vous estimez que quand il y aura l'indépendance ou l'autonomie, vous pourrez faire la révolution quelque part.
Ah oui.
Et donc, par exemple, quand Ho Chi Minh devient le chef de file de la décolonisation du Vietnam, il le fait certes parce qu'il est vietnamien, mais il le fait aussi et surtout parce qu'il est communiste et qu'il a l'intention de faire la révolution communiste au Vietnam. Et d'ailleurs, quand il obtient l'indépendance du Vietnam, qu'est-ce qu'il fait ? Il installe une société communiste. Ouais. Et donc ça, c'est le souverainisme.
C'est un outil.
Ouais. Et d'ailleurs, Karl Marx lui-même, selon les cas, quand il y avait des mouvements souverainistes au 19e siècle, du temps de Karl Marx, pour l'indépendance, par exemple, de la Hongrie, ou l'indépendance de tel ou tel pays d'Europe, si c'était du souverainisme, comment dire, ethnoculturel, il disait non mais ça c'est des trucs de réactionnaires, ça m'intéresse pas, et puis si c'était des trucs plus à vouloir faire une révolution qui pourrait potentiellement être communiste, là il était tout de suite d'accord. Donc vous voyez, c'est une vision plus instrumentale. Et vous avez une quatrième famille, qui est le souverainisme économique. Alors le souverainisme économique, ça va être de considérer la mondialisation actuelle comme un pouvoir au-dessus des États, et de dire, nous devons donc organiser le retour de la souveraineté économique nationale, et donc c'est des gens qui vont généralement être, d'une part, protectionnistes, et d'autre part, souvent pour la souveraineté monétaire. Si jamais il y a une monnaie commune, ils vont dire, il faut sortir. Et donc le meilleur exemple de ça, c'est qu'en fait, à ma connaissance, tous les souverainistes français sont souverainistes économiques, en plus d'être dans l'une des trois familles.
Voilà,
c'est ça, c'est que le souverainisme économique est le seul à être le discours commun de toutes les familles de souverainisme sans exception.
Oui, sans aller jusqu'à la sortie du système monétaire tout de même.
Pas obligatoirement, mais au minimum, il y a un discours critique. Au minimum, il y a un discours critique sur la monnaie quand c'est une monnaie supranationale.
Oui.
Au maximum, ça va être de dire il faut foutre ça par terre.
Oui.
Mais en tout cas, vous êtes forcément, donc en France par exemple, vous êtes forcément soit souverainiste ethnoculturel, le meilleur exemple c'est Zemmour, soit souverainiste civique, le cas chimiquement pur c'est Chevènement que je citais tout à l'heure.
Ou Montebourg.
Ou Montebourg, tout à fait, d'ailleurs, qui invoque souvent Chevènement. Oui, c'est un très bon exemple.
C'est le droit fil.
Voilà, souverainiste marxiste révolutionnaire, moi je pense sincèrement que la logique de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l'Europe ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il veut faire sa révolution citoyenne à l'échelle européenne et c'est le plan A, et si c'est refusé, il vous dit, bah, on la fera quand même à l'échelle nationale, c'est le plan B. Et donc c'est du souverainisme instrumental, on est d'accord. C'est si ça marche pas, l'étage au-dessus. Et vous avez donc le souverainisme économique, vous les prenez tous en fait, et vous avez des éléments de souverainisme.
Oui,
par exemple, ils sont tous protectionnistes.
Y compris un Emmanuel Macron.
Alors non.
Qui a été quand même pour une mondialisation et qui a beaucoup quand même ce mot à la bouche depuis le début de la crise du Covid, de souveraineté et donc derrière de souverainisme quoi.
Alors non, honnêtement non. Il ne se revendique pas du souverainisme. Il propose une notion de souveraineté européenne qui serait un étage au-dessus de la France. Et donc d'un côté, il y aurait la souveraineté nationale qu'on préserverait, et au-dessus, il y aurait la souveraineté européenne. Sauf que, en langage simple, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il nous propose que l'Europe devienne un État fédéral. Parce que, je suis désolé, s'il y a une souveraineté européenne à l'étage au-dessus et qu'à l'étage en dessous, il y a notre souveraineté nationale et qu'il y a des domaines respectifs, chacun à son étage, ça s'appelle les États-Unis d'Europe. Et donc, il est dans une tradition qui est totalement normale pour un centriste, parce que bon, Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est le fils politique de Giscard d'Estaing, si vous regardez bien. Il veut gouverner au centre, rassembler 2 Français sur 3 dans le grand milieu. Il est fédéraliste européen, et donc voilà, il est dans cette continuité-là. Il a même été ministre de l'économie avant d'être président, comme Giscard d'ailleurs.
Mais ça veut dire que les États-Unis, c'est un cas d'école en matière de souverainisme ?
Alors, les États-Unis d'Amérique, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr.
Alors, historiquement, oui, ce que vous dites est tout à fait exact. D'ailleurs, c'est une étude de cas dans le bouquin, c'est que le premier souverainisme civique à avoir gagné sa bataille pour l'indépendance, à ma connaissance, c'est la guerre d'indépendance américaine vis-à-vis du Royaume-Uni. C'est-à-dire, et d'ailleurs, quand vous regardez, comme il y avait des gens qui venaient d'un peu partout pour être devenus ensuite des colons, puis les premiers citoyens américains, vous ne pouviez pas avoir d'identité nationale culturelle, ce n'était pas possible, il y avait plusieurs langues qui étaient parlées, il n'y avait pas d'identité culturelle ou de coutume non plus, puisqu'il y avait un peu tout, il y avait plusieurs religions de toutes sortes, chrétiennes, mais de toutes sortes, et juives, au démarrage, de toutes sortes quand même, et donc ils étaient quelque part obligés de pratiquer un souverainisme civique. Et donc ça donne quoi? Ça donne le démarrage de la constitution américaine de l'indépendance, c'est nous, le peuple des États-Unis d'Amérique, et on décide ceci, cela, nous proclamons ceci. Et donc, dès la première phrase, on est sur la souveraineté démocratique du peuple. Ouais. C'est ça le souverainisme civique.
Ouais. Thomas Guénolé, il y a quelques années, après la guerre froide, etc., on a voulu un monde un peu sans frontières, hein, pas forcément mondialisation économique, mais un monde sans frontières. Est-ce que à cette époque-là, on a un peu oublié ce qu'était le souverainisme? Ou est-ce qu'on se disait, le souverainisme n'aura plus sa place parce qu'on aura un monde sans frontières, et pas de souveraineté, finalement?
Alors, je dirais que dans une perspective historique, il y a toujours eu des forces politiques, des grandes forces politiques qui disent les frontières sont vouées à disparaître.
Ouais.
Ce sont juste pas les mêmes d'une époque à l'autre. Et il y a toujours eu, en revanche, des forces en train de dire non, les frontières sont appelées à perdurer parce qu'elles sont la traduction de l'existence d'une nation. Et donc, je vous prends un exemple dont les gens n'ont pas conscience aujourd'hui. Historiquement, quand la République française est créée, elle a vocation, du point de vue des révolutionnaires, à être une République universelle. C'est-à-dire que progressivement, elle est censée devenir petit à petit la république du genre humain tout entier, parce qu'il y aura d'autres peuples qui vont devenir des bons républicains aussi, et au fur et à mesure, on aura une république universelle. C'était ça leur idéal. Et donc, par exemple, les premières forces républicaines révolutionnaires françaises, ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des internationalistes forcenés.
Oui.
On peut parler aussi des communistes pour qui c'était sans patrie ni frontières.
Oui.
Réciproquement, on peut considérer que à chaque fois que vous avez des grandes forces qui remettent en question les frontières, vous avez aussi des forces qui proposent soit de les maintenir, soit même d'en créer de nouvelles.
Oui.
C'est-à-dire que le Timor oriental est une nation qui, il y a quelques années, est apparue dans l'archipel indonésien. C'était un État, c'était des frontières qui n'existaient pas.
Oui, et plus près de nous, en France, quand on veut rétablir des frontières, c'est du souverainisme, évidemment, aussi.
Mais vous voulez un cas récent de questions souverainistes posées à l'intérieur même de la France ?
De la France.
Il y a quelques décennies, on avait la question de l'indépendantisme corse, qui se pose moins maintenant. Parce que maintenant, c'est plus un autonomisme, mais c'est du souverainisme aussi. Mmh. Et donc, alors, je vous parle, la Corse, elle est gouvernée par des souverainistes corses.
Mmh.
Des souverainistes qui seraient difficiles à qualifier entre le civique et l'ethnoculturel. Je ne veux pas me fâcher avec eux, mais par ailleurs...
On les salue, les Corses au passage.
Encore plus récent, d'ailleurs, soit dit en passant, la Nouvelle-Calédonie.
Oui.
Il y a eu un référendum pour ou contre l'indépendance vis-à-vis de la France. Mmh. C'est un cas d'école de souverainisme kanak.
Mmh. Est-ce qu'elle est nécessaire?
Le quoi donc?
Est-ce que le souverainisme est nécessaire?
Alors... je reformulerai en disant, est-ce que la souveraineté est nécessaire dans ce cas-là? Alors, c'est une question très difficile.
Je n'en doute pas une seconde.
Non, c'est une question vraiment difficile, parce que ça dépend quel est votre but, en fait.
Protéger ce qu'on a de chez nous, enfin en tout cas de chaque pays,
mais qu'est-ce que
de
vous
chacun
avez? Je vais vous dire un truc, je vais vous le dire différemment. En fait...
Des talents, sur plein de choses.
Je vais vous le dire différemment. Ouais. La nation, comme les dieux, les nations sont des croyances collectives. Une nation existe parce qu'il y a des millions de gens qui croient qu'elle existe. Qui le croient, c'est de la foi, en fait. Et donc, est-ce que la souveraineté, ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose si vous avez la foi. Si vous croyez en l'existence de votre nation, et si vous êtes donc un croyant et un pratiquant, j'allais dire, de l'idéal national, dans ce cas-là, par définition, effectivement, c'est très important de défendre la souveraineté, parce que, quelque part, c'est défendre l'existence de ce en quoi vous croyez.
Mais c'est gagner aussi en indépendance.
Alors, bien sûr, mais en indépendance de la nation, et encore faut-il que vous croyez qu'elle existe. Il y a des gens qui pensent sincèrement que les nations, c'est un truc périmé, et que l'avenir, c'est quelque part une nation plus vaste qui serait une nation européenne. Il y a des gens qui pensent ça.
Ouais.
Et c'est leur droit, après tout. Parce que c'est leur foi. Ouais, aussi.
Ouais, 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 ouais. Merci en tout cas, Thomas Guénolé, le souverainisme définition, et puis ensuite toutes ces grandes familles. C'est inédit, ça vient de sortir. C'est un Que sais-je. C'était aux éditions, Que sais-je.
Bah oui. Hein,
toujours, bien sûr. Les éditions Que sais-je, qui si passent les époques.
Non, mais qui passent si les époques. Si on m'avait dit, mais franchement, si on m'avait dit quand j'étais étudiant, bosser sur des Que sais-je à Sciences Po, qu'un jour j'allais en écrire un, moi je l'aurais pas cru, je vous aurais demandé ce que vous fumiez. Quoi.
Bon, et voilà, politologue et écrivain, Thomas Guénolé, qui était avec nous. Allez, dans un instant, la France à vos côtés sur les soldes.
Bah c'est
demain.
Qui démarre demain, ouais,
déjà,
bien entendu.
Pour les commerces qui sont assez éprouvés, on va voir, on va faire un petit point sur la situation avec nos invités.
Hein, ouais, faut-il protéger, justement, faut-il protéger nos commerçants face aux grands méchants loups Amazon bah alors, là, c'est ça aussi l'un des sujets. On en parle dans un instant avec le président de la Confédération des commerçants de France et une gérante de boutique de prêt-à-porter à Bagnoles. Restez avec nous, il est 9h40.